1, 2, 3, 4. Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour un nouveau numéro du Grand Direct. Ce soir, c'est un Grand Direct un petit peu spécial puisque nous avons choisi de vous faire revivre des moments particuliers et des morceaux choisis du Grand Direct. Nous allons commencer d'en vivre à Lausanne avec un sujet de janvier 2018. Avec Fabio, nous faisions le point de situation des sans-abri à Lausanne avec un invité. Il se nomme Pierre Conscience. Tout à l'heure, dans La Rose des Vents à 18h20, eh bien, nous allons parler avec Samuel d'une bande dessinée pour les migrants. Que se passe-t-il après leur arrivée? C'est la question à laquelle répond cette bande dessinée. Et puis, à 7h20, dans Cultiver Lausanne, il sera question d'esclavage avec un livre signé Olivier Pavillon. La situation des sans-abri à Lausanne, une bande dessinée après l'arrivée des migrants et le livre d'Olivier Pavillon, c'est le programme du Grand Direct de ce mardi 23 avril. À écouter comme tous les mardis sur radio.django.fm et sur le DAB de la Fabrique. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Et on commence cette émission avec un sujet que nous traitions le 12 janvier 2018. En effet, une manifestation s'était tenue auparavant, c'était en novembre 2017. Elle demandait des lits supplémentaires pour les sans-abri, Fabio.
Oui, en effet, et ce rassemblement qui réunissait des membres de plusieurs associations, mais aussi de personnes sans-abri, était organisé pour dénoncer une situation tendue, notamment en raison d'un abri de protection civile qui tardait à ouvrir pour cause de rénovation. Plusieurs manifestants et manifestantes avaient d'ailleurs dormi sur la place Saint-Laurent pour dire aux autorités que personne ne doit dormir dehors, surtout à l'approche des grands froids. Il faut dire encore qu'entre 50 et 100 personnes étaient refoulées chaque soir, obligées ainsi de passer la nuit dans la rue à Lausanne par manque de place dans les centres d'accueil.
Et puis cette manifestation avait déclenché une sensibilisation des citoyens et de la presse, hein, et bien entendu des réactions des édiles communaux. Hein.
Oui, on l'a dit, cela se passait il y a 2 mois et on va essayer de comprendre où on en est aujourd'hui avec un conseiller communal d'ensemble à gauche et secrétaire de solidarité. Bonjour Pierre Conscience.
Bonjour, bonne année.
Bonne année à vous, bienvenue sur Radio Django.
Oui, bonne année Pierre. Alors tout d'abord, quelles ont été les réactions à cette manifestation? Est-ce qu'elle a eu comme effet de relancer le débat public sur la politique d'accueil des sans-abri pour la nuit?
Alors oui, ça nettement, ça a relancé le débat public, premièrement par le nombre, hein, c'était entre 500 et 1000 personnes dans les rues de Lausanne pour la manifestation de rue, et une centaine de personnes déjà 3 semaines auparavant pour cette action Sleepout qui a consisté à dormir dehors pour symboliser notre soutien aux personnes sans-abri et notre refus de cet état de fait à Lausanne de trop de personnes qui sont contraintes de dormir dehors. Et évidemment, ce nombre, combiné au fait que c'est en large partie des personnes concernées qui se sont mobilisées, et ce n'est pas acquis d'avance dans ces domaines-là de lutte et de lutte sociale, ont fait que ça a relancé le débat public, notamment au conseil communal, où mon groupe Ensemble à gauche a pu amener toute une série de revendications qui n'ont pas passé la rampe, mais la pression de ces mobilisations et du débat public a quand même permis de débloquer quelques places d'accueil, mais la solution n'est de loin pas réglée. Il y a encore beaucoup de choses à faire, malheureusement, pour les personnes sans-abri à Lausanne.
Pierre Conscience, qui sont ces sans-abri? Quelle population, au pluriel, hein, qui n'ont pas de solution pour passer la nuit aujourd'hui à Lausanne?
Alors, elle est très multiple. C'est évidemment impossible de l'homogénéiser. Vous avez des personnes dont le parcours de vie a fait que la précarité est venue, s'est immiscée, l'augmentation des working poor dans notre société, les inégalités sociales qui croissent toujours plus. Aujourd'hui, 2% des personnes ont le même revenu que 98% du reste de la population, et c'est des disparités qui ne font qu'augmenter. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a évidemment un autre élément qui n'est pas caché, au contraire, qui est la problématique migratoire actuelle en Europe. Et face à cette problématique migratoire, la politique de non-asile de la Confédération, qui rejette toute une série de personnes qui viennent demander l'accueil et le refuge parce que chez eux, ils sont dans des situations de crise humanitaire. Et face à ce rejet, bah, on voit émerger de nouvelles personnes qui sont sans papier et donc ne peuvent pas faire valoir des droits et obtenir notamment un logement ou ne serait-ce qu'obtenir un travail pour pouvoir se payer leur logement. Et évidemment, ça ne fait qu'augmenter le nombre de personnes dans une précarité extrême, ce qui n'est pas acceptable.
Alors, la manifestation de novembre, Pierre voulait mettre en évidence ses lacunes, tu viens de le dire aussi. Est-ce que des choses ont changé où on en est le 9 janvier 2018 ?
Bon, je crois globalement qu'il faut déjà dire qu'en matière de politique générale de la municipalité, non, rien n'a changé. La seule chose qui s'est passée, c'est que sur la pression de l'occupation d'une salle de gymnastique, c'était pas le même jour que la manifestation, maintenant la date exacte m'échappe, mais donc le collectif New Life qui s'est mis sur pied à l'occasion de ces mobilisations de l'automne dernier.
Donc c'était le début décembre, je crois, non ?
Voilà, exactement. Début décembre, j'ai pas la date exacte, mais c'est pas important. Donc c'était au collège de Grand-Veine, une salle de gym a été occupée pour dire voilà, on n'a pas de solution pour dormir dehors, donc on vient là parce qu'on doit être au chaud, sinon notre intégrité physique est menacée. Cette mobilisation-là a été réprimée de force et les personnes ont été jetées à la rue, ce qui est pour moi un scandale. Néanmoins, dans les jours qui ont suivi, la municipalité, sous cette pression, a décidé de débloquer les 50 places d'accueil d'urgence supplémentaires, normalement réservées au plan grand froid. Je me permets juste de dire que le plan grand froid, c'est des conditions extrêmement restrictives en matière de température qui sont rarement atteintes, alors que le risque de dormir dehors, même quand il fait 0 ou 2 degrés, ce qui ne respecte pas les conditions du plan grand froid, bah, ces risques sont déjà existants. Et c'est pour ça que nous demandons l'augmentation substantielle du nombre de places d'accueil à Lausanne.
Alors ces 50 places dont tu viens de parler, qui ont été débloquées en urgence en début décembre, elles ont été trouvées où, débloquées où, dans quel cadre ?
Alors c'est celles elles sont à l'abri PC de la jeunesse et il s'agit donc de places qui sont justement réservées pour le plan grand froid notamment. Faut accueillir un certain nombre de jours où les températures la nuit descendent en dessous de moins 5 degrés et d'autres conditions pour la journée.
On a déjà un petit peu froid, hein, moins 5.
Voilà, exactement. Et je crois même à 2 degrés, c'est déjà pas acceptable de faire dormir des gens dehors. Et je crois même qu'une politique de gauche pour une municipalité d'une ville aussi grande et aussi capable que celle de Lausanne, une politique de gauche consisterait à, de toute façon, en tout temps, faire en sorte que personne ne dorme dehors. Mais ça, c'est des questions budgétaires, c'est des choix politiques que, visiblement, la majorité actuelle refuse d'entreprendre une bonne fois pour toutes, parce que la municipalité se targue du fait qu'en 10 ans, le nombre de places a doublé. Il n'empêche que le nombre de refus par année, entre 5500 et 6500 refus par année, stagne, lui, parce que la quantité de personnes précaires augmente. Et donc, cette solution n'est de loin pas réglée. Le problème continue et il faut trouver des solutions, mettre l'argent nécessaire. C'est pour ça qu'on a fait cette proposition d'allouer 600 000 francs de plus pour l'accueil d'urgence au budget 2018 de la ville de Lausanne, qui a malheureusement été refusé. Il faut aussi trouver des nouveaux lieux d'accueil. Mais ça, la ville en a les moyens, c'est évident.
Mais donc, la ville et la municipalité est au courant de ces chiffres dont tu viens de parler, du fait qu'il y a beaucoup de personnes, enfin, qu'il y a passablement de personnes qui dorment la nuit encore dehors, il n'y a pas assez de place. Est-ce qu'il y a une étude qui est faite ou bien est-ce que c'est que par le relais d'un certain nombre d'associations que ces chiffres et que ce besoin remontent ?
Ces chiffres ne sont pas contestés par la municipalité ni par la majorité du conseil communal. C'est vraiment pas l'enjeu du débat. L'enjeu du débat, c'est qu'est-ce qu'on fait sur cette situation. La municipalité dit on fait déjà beaucoup et on fait plus que d'autres villes, certes, mais c'est bien ici que se trouve cette précarité. On ne peut pas comme ça juste dire qu'il faut simplement balayer plus loin et puis renvoyer la responsabilité, bien sûr. Et moi, je soutiendrai toujours la municipalité quand il s'agira d'exercer des pressions sur d'autres communes ou sur le canton, parce qu'en effet, il y a des carences aussi dans d'autres communes et surtout de la part du canton qui, lui, alors, a une marge de manœuvre encore plus considérable et qui devrait être responsable d'allouer plus de subventions aux communes pour qu'elles puissent faire cet accueil d'urgence. Néanmoins, face à l'urgence, quand on est devant cette situation et que des dizaines de personnes chaque nuit sont contraintes de dormir dehors, eh bien, il faut agir. Et la ville de Lausanne, avec un budget qui se chiffre en milliards, en a les moyens.
Alors, en attendant peut-être ces décisions politiques qui peuvent débloquer la situation, la réalité est que des gens dorment dehors. Est-ce qu'il y a une solidarité qui se crée ? Comment se passe la nuit, en fait, lorsque des personnes n'arrivent pas à trouver à dormir dans les lieux prédestinés ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, Il y a plusieurs degrés de situation. Et je ne suis pas membre, moi, d'une des associations qui... je ne suis pas actif dans la rue le soir pour venir en aide à ces personnes. Donc, je ne veux pas me substituer à elles pour donner tous les détails de ce qui se fait. Mais il y a, par exemple, le collectif de la Maraude qui apporte des denrées alimentaires, des habits chauds et d'autres produits de première nécessité pour les personnes qui sont dans la rue le soir, la nuit. Le collectif Jean Dutoit également prend, en fait, se substitue au devoir de la collectivité en accueillant dans un bâtiment des dizaines de personnes chaque nuit. Et il y a comme ça d'autres collectifs de personnes, de citoyens et de citoyennes qui prennent en charge ce que les collectivités publiques, au fond, ne font pas. Et après, ces mêmes collectivités publiques ont bon dos de critiquer les méthodes de ces collectifs, mais ils agissent ainsi parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative.
On a entendu parler, Pierre Conscience, de plusieurs recettes et de souhaits de la part des politiques de la majorité rose-verte, par exemple d'inciter d'autres villes à faire des efforts. Partons donc de la conviction que Lausanne est une sorte d'aimant, hein, d'appel d'air pour les sans-abri ?
C'est ce qu'on dit toujours des villes-centres. Et moi, je pense que c'est en effet une réalité, mais c'est aussi une réalité que la précarité se développe dans les villes-centres et les inégalités de répartition de richesses se passent avant tout dans ces espaces-là. Après, c'est aussi une réalité que ces collectivités publiques-là ont plus de moyens, plus de marge de manœuvre, et que les quelques dizaines de personnes en plus, c'est évidemment beaucoup moins d'investissement pour une ville comme celle de Lausanne, proportionnellement à son budget, que si c'était à une ville comme Morges ou Nyon de s'en occuper. Donc, je veux dire, à la fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut augmenter les pressions sur les autres collectivités publiques pour que cet accueil puisse se faire un peu partout. Néanmoins, des personnes sans abri, elles viennent dans les villes-centres parce que c'est là qu'elles peuvent trouver le plus d'activités et d'aide sociale dans la journée. Et c'est ici qu'elles se retrouvent le soir parce que souvent, elles n'ont même pas l'argent de se payer un billet pour changer de commune. Donc, c'est vraiment une réalité qu'il faut savoir prendre en compte. Et après, ça peut se jouer justement par des aides du canton, une péréquation fiscale intercommunale qui soit adaptée en fonction d'une politique d'accueil basse-œil coordonnée par le canton. En effet, on peut faire des pressions là-dessus, mais encore une fois, il y a l'urgence, il y a l'ici et maintenant. Et là, ça, c'est la commune de Lausanne, dans la situation dont on a parlé tout à l'heure de novembre 2017, d'agir.
On a entendu aussi un édile lausannois parler de recourir à l'EVAM, l'établissement de vaudois d'accueil des migrants, qui est cantonal. J'ai aussi entendu ta réaction. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu peux nous la répéter ici ?
Oui, je peux la répéter. C'est-à-dire que oui, il y a des places à l'EVAM. Sauf que l'EVAM, c'est un établissement qui porte très mal son nom. Ce n'est pas un établissement d'accueil des migrants. C'est pour l'essentiel du temps, pour en tout cas la grande majorité des personnes qui demandent l'asile en Suisse, notamment les personnes qui sont sous le coup des accords Dublin, c'est ces accords qui demandent de renvoyer automatiquement, sans même entrer en matière, sans ouvrir le dossier d'asile, toutes les personnes qui sont passées par un autre pays d'Europe et qui fait qu'il y a des pays comme l'Italie qui se voient concentrer toute la population migratoire de ces dernières années pour toute l'Europe. Bon, il y a ces accords de Dublin, à l'EVAM, c'est juste une case d'attente avant d'être envoyé. Donc évidemment que les personnes qui ne veulent pas être envoyées, elles ne vont pas aller à l'EVAM. Et moi, je les soutiens dans leur démarche parce que je m'oppose à la politique.
C'est dangereux, quoi.
C'est extrêmement dangereux pour elles parce qu'elles seront renvoyées dans des pays où les conditions d'accueil prennent de plus en plus les contours d'une réelle crise humanitaire, comme l'Italie, la Grèce, l'Espagne ou la Hongrie, où ces personnes sont même violemment réprimées du fait d'un gouvernement raciste qui est en place dans ce pays. Voilà, il y a d'autres exemples de ce type. Donc, par exemple, une municipalité de gauche comme celle de Lausanne, qui s'oppose à cette politique d'asile, en tout cas aux dernières nouvelles, j'espère qu'elle n'a pas changé d'avis, elle devrait être avec le groupe Ensemble à gauche dans le fait de ne pas les renvoyer à l'EVAM pour que ça ne soit qu'une case intermédiaire avant la case coin-train pour être pris de force dans un avion.
Est-ce que les négociations avec la municipalité de Lausanne, elles sont à quel point ?
Alors, je crois qu'elles sont, en tout cas, entre les collectifs et la municipalité, elles sont difficiles parce que la municipalité de Lausanne, malgré ses mobilisations, alors à l'exception du fait qu'elle a débloqué hors du plan Grand Froid ses 50 places, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, a réitéré l'annonce qu'elle ne voulait pas infléchir sa politique en la matière, se targuant du fait qu'elle fait plus déjà que les autres. Et c'est évidemment un problème. Nous, on a essayé de reposer ça à l'occasion du débat sur le budget. On va, dès la rentrée, reposer cette question en déposant des postulats pour augmenter le nombre de places d'accueil à Lausanne. Il y a plein d'alternatives qui peuvent être pensées. Ça peut être des nouveaux bâtiments qui sont alloués à cette question. J'ai entendu tout...
Qui existe ?
La ville de Lausanne a du bâti, et puis elle peut juste entreprendre une politique proactive en la matière pour acheter du terrain. Depuis la L3PL, la nouvelle loi sur le logement dans le canton, en plus, c'est d'autant plus facile parce qu'elle a la priorité sur tout terrain qui est mis en vente. Donc elle peut, si elle le veut. C'est une question de volonté politique et de où on met combien d'argent.
De façon plus générale, Pierre Conscience, quelle est l'appréciation de ton groupe Ensemble à Gauche sur le dispositif Basseuil qui est mis en place par la ville de Lausanne?
Bah, c'est-à-dire, je n'ai pas envie de peindre un tableau tout noir, tout blanc. Évidemment qu'il y a des choses qui se passent. C'est notamment lié aux subventions qui sont allouées par la ville de Lausanne. C'est aussi lié au travail formidable que font les travailleurs sociaux d'associations et de fondations comme Mère Sophia, la Soupe Populaire ou comme le Sleep In ou Caritas ou d'autres. Donc, je pense qu'il n'y a évidemment pas rien. Il y a des dizaines de personnes qui sont accueillies dans l'urgence chaque soir. Mais je pense qu'il y a une carence. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a entre 5500 et 6500 refus par année. C'est donc des dizaines par soir en moyenne de personnes qui sont en impossibilité de pouvoir obtenir une place d'accueil d'urgence et doivent trouver des solutions ad hoc. Et c'est souvent les lieux les moins exposés au vent dans la rue, quoi. Et ça, c'est pas acceptable. Et j'espère qu'on va pouvoir réussir à soit faire changer d'avis la municipalité ou par des pressions citoyennes et populaires la contrainte de le faire, parce qu'il y a une urgence humaine qu'elle a derrière, pour laquelle, pour moi, j'estime qu'on ne peut pas attendre.
On voit actuellement, on est le 9 janvier, l'hiver est bientôt derrière. Est-ce que du coup, ça va baisser un petit peu la pression, le fait d'arriver avec les belles journées, le printemps, l'été, ou bien pas du tout? Pour vous, c'est une lutte toutes les saisons ?
C'est une lutte de toutes les saisons. Évidemment qu'elle prend un caractère beaucoup plus urgent et grave quand vient l'hiver, parce que c'est vraiment menaçant pour les personnes concernées. J'espère que la braise ne va pas s'éteindre, parce que c'est un débat très important et qu'on va pouvoir continuer à amener ces propositions. Et on en a beaucoup en la matière. Non, je ne pense pas, parce que je pense qu'il y a des collectifs qui se sont mis sur pied, qui font un formidable travail et qui ne vont pas s'arrêter. Puis ceci dit, on est le 9 janvier. Enfin, je suis vraiment triste pour les personnes que l'hiver dure encore, mais il va encore durer jusqu'à fin février, malheureusement.
Effectivement, on retiendra, Pierre Conscience, que c'est un long débat et qui nécessite encore et encore du travail, notamment pour Lausanne, mais pour la région. Merci beaucoup, Pierre Conscience, conseiller communal, membre d'Ensemble à Gauche et secrétaire de Solidarité. Une bonne soirée à vous.
Merci de m'avoir invité. Bonne soirée.
Un point de situation début 2018 sur les associations qui œuvrent quotidiennement pour ces places de couchage pour les personnes en demande d'asile. Merci à Fabio pour ce sujet, un sujet à retrouver sur notre site www.django.fm.
Radio Django, La Rose des Vents.
Suite de cette émission de Moments choisis du Grand Direct, on revient cette fois-ci au 18 septembre dernier. Samuel venait nous présenter une bande dessinée et un reportage fait par une journaliste et un dessinateur pour parler de migration. Un ouvrage publié en décembre 2017 par la revue Vivre Ensemble.
Oui, cette revue entend porter un regard critique sur le droit d'asile et sur le droit des réfugiés en Suisse. Mais c'est une histoire française que raconte la bande dessinée après l'arrivée, celle de Fourneau, un petit village des Alpes situé à la frontière avec l'Italie. Fourneau vivait de cette position stratégique, mais après la fin des contrôles douaniers en 1993, le village s'est vidé. Il a perdu 1000 habitants en 20 ans. Aujourd'hui, 660 personnes y vivent et cohabitent avec 33 exilés hébergés dans une ancienne colonie de vacances. Après l'arrivée, c'est la découverte du village, de ses habitants et des nouveaux arrivants.
Et pour ce reportage, le dessinateur Hergy et la journaliste Julie Eigenmann ont vécu une semaine à Fourneau. Les deux auteurs sont avec nous ce soir. Bienvenue à vous deux sur Radio Django.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes parti à Fourneau en juin 2017, 7 mois après l'arrivée des 33 migrants. Pourquoi avoir choisi d'aller en France pour faire ce reportage ?
Alors, peut-être pour rebondir sur l'introduction de Samuel Sequet, on peut dire que ce n'est pas vraiment une histoire française. C'est une histoire qui peut être élargie à beaucoup de contextes d'accueil et de refuge, en l'occurrence, pour les exilés. Et du coup, la France, c'était une opportunité de montrer que c'était des expériences humaines, des morceaux de nous, un peu, qui, en l'occurrence, s'exprimaient à Fourneau après le démantèlement de la jungle de Calais, soi-disant jungle de Calais. Et que ça, c'était une bonne occasion de parler de ce sujet à travers ce village.
Alors Fourneau, c'est un village où les histoires de frontières se répètent. En 1993, comme on l'a dit tout à l'heure, le village a vu partir ses gardes frontières. En 2016, il voit débarquer des migrants qui ont traversé plein de pays en essayant d'échapper aux gardes frontières. Pour la plupart de ces exilés, ce village de Savoie est une étape sur le chemin. Une étape imposée par l'administration française. Ils y ont été conduits après la destruction de la jungle, avec des guillemets, de Calais à l'automne 2016. Ce reportage après l'arrivée est composé de deux parties. Dans la première, on rencontre des habitants, la boulangère, le maire, des bénévoles qui donnent des cours de français. Et dans la seconde partie, on s'approche plus près des migrants. Ils sont tous des hommes, ils ont moins de 25 ans. Ils vivent dans cette colonie de vacances devenue Centre d'accueil et d'orientation, CAO. Ils s'y ennuient beaucoup. Ils attendent leurs papiers. On rencontre Messaoud qui vient du Soudan. Il dit « Avec les papiers, mon cœur sera libre de penser. » Omar est lui aussi soudanais. Il vient d'obtenir le statut de réfugié. Oussama raconte son calvaire en Libye, la prison, les coups, le canot de sauvetage qui coule en mer et sa femme restée au Soudan. Hassan est afghan, 3 ans qu'il n'a pas vu ses 3 filles et sa fille. Dans cette seconde partie, on s'attarde aussi avec les habitants, le cordonnier, un immigré italien qui pense qu'ils sont 200. En fait, il y en a 33. Il pense que ça va mal finir. Un jeune du village aussi qui se demande pourquoi on devrait les aider. Il dit, on ne saura jamais vraiment qui c'est ces gars-là. Pour votre reportage, vous revenez aussi en août, donc 2 mois plus tard, et vous rencontrez un jeune salarié d'une association locale qui a l'impression d'être devenu un larbin de la politique. Ces deux parties dans la BD, vous les distinguez par des couleurs. Le rouge dans la première domine, et puis ensuite, c'est le bleu dans la seconde partie. Pourquoi avoir choisi ces deux couleurs ?
Je vais laisser à Hergy, le dessinateur, le soin de répondre, puisque c'est quand même à lui que ça revient.
L'art graphique, Hergy.
Alors, on nous pose beaucoup cette question. En réalité, ce n'est pas vraiment un aspect qui était important, ni même significatif, dans le sens où... C'était vraiment un choix esthétique, c'est-à-dire on ne voulait pas rester sur une seule couleur, rouge, et on a voulu passer au bleu, on a voulu changer aussi pour renouveler le regard du lecteur, pour rendre la lecture plus agréable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu dans ce changement un changement de ton aussi, et ben finalement ça ne peut que apporter quelque chose en plus.
Alors on lit en préambule de la bande dessinée que le plus dur est le premier pas. Vous êtes deux étrangers au village, vous débarquez dans ce village perdu de Savoie. Comment est-ce que vous avez été accueillis par la population ?
Alors, la population, plutôt bien. On va dire que les gens, au début, sont un petit peu froids, mais finalement, quand on en parle, on réalise qu'ils ont envie de s'exprimer. Ils ont des questions aussi. Justement, on a vu certains préjugés qui sont ressortis. Et puis, évidemment, le plus important pour nous, c'était le contact avec les migrants eux-mêmes. Et ça, forcément, c'est compliqué. La première chose, c'était simplement la barrière de la langue où ça met du temps. Et puis une certaine implication, une certaine confiance qui doit s'installer pour qu'on puisse vraiment avoir des échanges qui aient au-delà des banalités qu'on peut imaginer. Ça, c'est vrai que l'accueil était bon, évidemment très chaleureux, mais la communication moins facile au début que ce qu'on avait sans doute projeté.
J'ajouterais juste qu'avec notre nationalité suisse, les gens étaient beaucoup plus libérés. Certaines personnes ne voulaient pas nous parler jusqu'à qu'on dise qu'on est suisse et que du coup... On n'était pas des journalistes français classiques.
Pourquoi, à votre avis, il y a cette différenciation d'origine ?
Peut-être simplement parce qu'on venait, je ne pense pas que c'était forcément l'aspect suisse, mais parce qu'on venait d'ailleurs, on était venu pour ça. Il y avait aussi le côté où on montrait qu'on était là pour une démarche d'un peu plus long terme, pas juste passer une heure et puis venir dire « il y a un centre, mais quelque chose d'un peu plus profond ». Et ça, je pense que ça touche les gens, ça leur donne quand même envie de répondre d'une certaine manière.
Un des personnages de la bande dessinée, Hassan, vient d'Afghanistan où il était traducteur. Vous lui demandez comment il se sent ici. Il répond « Je préférais Calais. Il y avait beaucoup d'ONG qui aidaient. On avait un espoir pour la suite. Ici, tout est mensonge. » Est-ce que c'était aussi votre impression en étant à Fourneau que tout était mensonge ?
Non, mensonge, je ne crois pas. Mensonge... C'est un petit peu difficile de répondre parce que lui, son regard à lui, pour lui, c'était un mensonge parce que il attendait des papiers, il attendait des réponses qui ne venaient pas. Alors qu'à Calais, il voyait une suite, là, il ne la voyait pas très bien. Pour nous, mensonge, non. Il y a beaucoup de gens qui s'investissent pour que la situation s'améliore, pour que les migrants soient dans de bonnes conditions, etc. Ce qui est vrai, c'est que, comme on le dit à la fin, c'est extrêmement compliqué au niveau administratif. Donc, on a pu comprendre ce sentiment qu'il a de mensonge. Après, c'est un terme un peu trop global et un petit peu trop immédiat. Évidemment que toutes les initiatives et toutes les intentions, on ne peut pas les qualifier de mensonge dans le cas de Fourneau, je ne pense pas. Je ne sais pas si...
Oui, c'est vrai que surtout, finalement, on voit qu'il y a certains efforts qui sont entrepris, mais c'est surtout l'expression, pour la part d'Hassan, d'une attente insupportable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi va être fait l'avenir. Chaque jour, c'est un jour dans l'inconnu et puis une attente qui doit vraiment être difficile, comme ils l'expriment bien tous d'ailleurs. C'est terrible.
On va rentrer peut-être un petit peu plus dans les coulisses de votre travail, Samuel.
Oui, vous mettez en scène dans la BD. On vous voit interviewer le maire, les salariés d'associations, les migrants eux-mêmes. On sent que l'enquête a été menée à deux, mais comment avez-vous réalisé la bande dessinée en elle-même ? Êtes-vous parti du texte, des images ? Comment avez-vous travaillé cette création à quatre mains ?
on est vraiment parti du texte, c'est-à-dire qu'on a d'abord réalisé les interviews sur place, et rencontrer les gens et d'ailleurs aussi pris des photos pour ensuite le travail graphique. C'est vrai qu'on a sélectionné d'abord les passages qui nous semblaient essentiels à la bande dessinée et ensuite ça a été traduit en bande dessinée. Mmh.
Et ce texte, vous l'avez élaboré tous les deux ?
Oui, les deux ensemble. Sur le terrain, c'était vraiment ensemble qu'on a mené les interviews, fait différentes observations, etc., en faisant régulièrement des points, des bilans sur ce qu'on venait de voir et d'entendre. Et ensuite, le texte, on l'a élaboré ensemble. Et puis, évidemment, pour la partie dessin.
Erji, tout seul.
Voilà,
ça, c'est. Et donc, Erji, sur place, vous avez évoqué des photos. Vous dessinez aussi des croquis ou vous travaillez uniquement sur la base des photos que vous prenez pendant le reportage ?
Alors, il y a eu quelques croquis sur place. Évidemment, avec la photo, on a pu en faire quelques centaines. Il y avait aussi des prises de notes, simplement pour saisir des ambiances, saisir des attitudes qui, des fois, vraiment étaient particulières et qu'il fallait décrire. Donc, c'est vrai qu'on a surtout utilisé la photo pour ça.
Oui, puis on voit d'ailleurs des environnements qui sont très marqués. Par exemple, le bureau du maire qui est assez épuré avec juste une petite plante verte sur une étagère. Et puis, quand on est dans le bureau de l'association, il y a des post-it partout. On sent que l'environnement est très marqué comme ça. Pour faire un reportage, on peut partir un peu en freestyle, sans contact, et puis laisser les rencontres se faire une fois sur place. Ça implique d'avoir un peu plus de temps devant soi en général. Si on est pressé, on peut aussi prendre des contacts en amont, et puis quand on arrive sur place, toutes les rencontres sont déjà prévues et agendées. Vous avez procédé comment pour ce reportage ?
Disons que pour ce qui était du maire et puis du centre lui-même, on a pris les contacts à l'avance parce que voilà, c'était important pour nous de savoir ce qu'on allait, comment on allait pouvoir s'organiser. On n'avait pas tant que ça sur place.
Vous aviez une semaine, hein, c'est ça ?
Un peu moins. La première fois, on est resté 4 jours.
4 jours.
Et puis, on est revenu une deuxième fois. Donc, on a vraiment, voilà, on a pris des contacts avant. Mais c'était la part d'improvisation qui est de toute façon toujours présente dans le reportage. C'était vraiment que ben voilà, le rendez-vous avec le maire était assez clair. Mais pour le reste, les intervenants, que ce soit les personnes qui travaillent au centre ou les migrants, etc., évidemment, ça, on n'avait pas du tout prévu dans quel ordre, comment, quoi, ça se ferait. Donc, cette partie-là était beaucoup plus improvisée, mais on avait annoncé au centre qu'on venait, parce que voilà, sinon c'est pas possible d'arriver juste comme ça, évidemment si on a des mois devant soi, mais voilà. Mais là, c'était pas possible d'arriver, d'être sûr qu'on nous reçoive, donc c'était prévu, mais disons pas organisé.
Et vous viviez dans le village, vous aviez un point de chute
dans le village.
Alors RG, vous êtes dessinateur, voici ce que vous dites de vous-même. RG, c'est un mec avec un crayon, une gomme, entre parenthèses, il se trompe parfois, une plume et beaucoup d'envie de planter sa mine là où ça fait mal. Aujourd'hui, RG, où est-ce que ça fait mal ?
Aujourd'hui, dans l'actualité ou...
Pour vous ?
Ben, y a énormément de sujets qui peuvent faire mal et qui sont que j'adore dessiner justement pour provoquer cette piqûre. Mais moi, cette thématique autour de l'accueil des réfugiés, j'ai entendu avant parler de la crise migratoire, on peut aussi parler de la crise de l'accueil, parce que c'est, en l'occurrence, ça a été ça le problème selon moi, c'est que cette fois, on a refusé, les pays européens ont refusé d'accueillir, comme ils le faisaient avant en tout cas, et que... Oui, ben évidemment, il y a énormément de... Moi, les sujets politiques chauds sont toujours... à la base, je suis dessinateur de presse, donc disons, je suis multi-intéressé.
Et sur cette thématique de l'exil en particulier, il y a eu un déclic, un événement particulier qui vous a fait vous pencher plus particulièrement sur ce sujet ?
Oui, alors en fait, je travaille avec la revue Vivre Ensemble pour laquelle je dessine, donc... depuis 2013, et il se trouve que pendant cet été 2015 où il y a eu toutes ces arrivées par bateau, c'est d'ailleurs à la base de ce projet de BD reportage, c'est qu'on entendait beaucoup de bêtises, beaucoup d'informations à l'emporte-pièce, je dirais. Et il y a vraiment eu une envie de remettre les choses à plat, et ça, avec cette bande dessinée, ça a été l'occasion de parler de faits, de choses vraies qu'on voit et qui sont tangibles. Et c'est important de donner une dimension humaine à ces choses-là.
Julia Ingenman, vous êtes journaliste. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette enquête sur ce village de Fourneau ?
Là, justement, je dirais qu'on a lu beaucoup de choses après le démantèlement de la jungle de Calais. Sur le démantèlement lui-même, aussi parfois juste sur l'arrivée où voilà, hop, on savait que tel village avait accueilli tant de migrants. Mais finalement, on avait l'impression, il y a eu beaucoup de reportages photos aussi, mais qu'il y avait peut-être un peu moins eu de regard sur l'après et des mois après. Qu'est-ce qui se passe, comment ça évolue, pas juste l'arrivée où à la limite l'arrivée se passe très bien, les
mais c'est le principe
accueillants.
Systématiquement quand il se passe un événement on en parle
voilà,
tout de suite
ça.
Et on oublie,
c'est ça, c'est le côté journalistique et voilà, et là c'était l'idée de se dire ben voilà, c'est sur le plus long terme, c'est peut-être pas, il n'y a peut-être pas d'événement précis, c'est nous qui le créons, et je crois que c'est ça qui m'a emballée et qu'on était contents de pouvoir faire, c'était d'y aller après et puis de voir comment ça se passe vraiment.
Alors durant cette semaine, ces 4 jours d'immersion, puis ce retour 2 mois plus tard, on imagine que vous avez créé des liens avec ces migrants, avec ces habitants. Est-ce que vous avez gardé le contact par la suite ?
Oui, mais...
Ça a été assez compliqué avec moi j'ai envie de résumer ça par les autorités, c'est-à-dire qu'on a voulu faire par exemple un vernissage exprès pour le centre et exprès pour le village de Fourneau.
De votre bande dessinée donc ?
Oui, oui. Et ça ne s'est pas passé comme on pensait. Et du coup, on a eu un petit manque peut-être.
Il faut juste dire que ce n'était pas négatif. C'est vraiment une question de... Enfin, pas une mauvaise volonté. Il y avait mal de volonté de le faire. Mais c'est très compliqué. On l'a compris dans ces milieux associatifs, comme on voit à la fin Germain qui s'en va. Et là, en fait, l'équipe a à peu près complètement changé. entre le moment où on y est allé et puis le moment où on a voulu justement peut-être y revenir faire un vernissage. Donc on a beaucoup échangé au vernissage à Genève. Il y a des gens qui sont venus, malheureusement pas de migrants. C'était pas possible, mais il y a des gens qui sont venus. Donc il y a eu un échange, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu mener jusqu'au bout.
Donc au final, il n'y a pas eu de vernissage place, à Fourneau. Et vous savez un an plus tard ce qui se passe là-bas?
On a su, mais là, comme ça fait encore un an...
actuellement non, mais on sait qu'on a su que énormément des gens qu'on avait rencontrés sur place avaient été changés, ont été déplacés en fonction de l'avancement de leur procédure. Mmh. Et ben c'est vrai que c'est compliqué de garder contact avec eux parce que ils se déplacent, ils sont mobiles, c'est compliqué.
Beaucoup de circulation, ouais, ça on a su tant les migrants que le personnel.
Des associations.
Voilà. Mmh. Ouais.
Cette bande dessinée donc, que j'ai entre les mains ici, une belle bande dessinée avec du texte, des bulles, des images, des représentations de vous, comme on l'a dit tout à l'heure, des situations, des mises en scène qu'on vous recommande et qu'on vous encourage à lire et à prendre connaissance, que ce soit pour vous, pour votre culture générale ou pour le geste de la découverte donc, de ces événements et de ces migrants à Fourneau. Comment est-ce qu'on peut se procurer votre bande dessinée?
Il suffit d'envoyer un mail à la revue Vivre Ensemble. Vous pouvez aller sur leur site internet asile.ch et commander la bande dessinée par courrier postal qui vous sera envoyé à la maison.
Il y a aussi certaines librairies à Genève qui en vendent. On encourage, si à Lausanne ça intéresse des librairies aussi, pourquoi pas. Mais c'est pas en grand nombre, donc c'est peut-être mieux de passer par le site.
Directement donc asile.ch, la revue qui est publiée par Vivre Ensemble. On vous met les liens évidemment sur notre site django.fm. Merci beaucoup Hergy, merci également à vous Julie Eigenmann.
Merci.
Et une bonne soirée, bravo pour votre travail. Merci d'être venu ce soir sur Radio Django nous parler de votre bande dessinée Après l'arrivée. Encore une fois, on va mettre tous les liens sur notre site. Merci beaucoup à Samuel pour la préparation de ce sujet. À tout bientôt.
À bientôt.
Une rencontre et une émission à retrouver sur notre site django.fm. Samuel, on se quitte avec un choix musical.
Oui, le choix musical de nos invités, c'est une chanson de Georges Brassens, La balade des gens qui sont nés quelque part.
Eh bien, ça tombe bien, c'est tout à fait d'actualité. Georges Brassens sur Radio Django.
C'est vrai qu'ils sont plaisants. Tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité. Et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leur rempart. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leur clocher qui vous montre leur tour. Leur musée, leur mairie vous font voir du pays natal jusqu'à Loucher. Qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète ou du diable Vauvert ou bien de Zanzibar ou même de mon cul, ils s'en flattent mazette. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Le sable dans lequel douillettent leurs autruches enfouissent la tête. On trouve pas plus fin quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leurs baudruches, leurs bulles de savon. C'est du souffle divin. Et petit à petit, les voilà qui se montent le cou jusqu'à penser que le crottin fait part. Leurs chevaux, même en bois, rendent jaloux tout le monde. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. C'est pas un lieu commun, celui de leur naissance. Ils plaignent de tout cœur les pauvres malchanceux, les petits maladroits qui n'eurent pas la présence, la présence d'esprit de voir le jour chez eux. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire, contre les étrangers tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre. Les imbéciles heureux qui
qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Mon Dieu, qu'il ferait bon sur la terre des hommes si l'on y rencontrait cette race incongrue, cette race importune, et qui partout foisonne, la race des gens du terroir, des gens du cru. Que la vie se révèle en toutes circonstances, si vous n'aviez tiré du néant ces jobards. Preuve peut-être bien de votre inexistence, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part.
Une chanson signée Georges Brassens en 1972 sur Radio Django.
Radio Django, culture.
Ce soir, dans Cultiver Lausanne, on retrouve un sujet proposé par Linda. C'était le 24 octobre 2018. Nous parlions d'esclavage, de colonies et de traite négrière, des sujets qui semblent un petit peu distants à la Suisse.
Oui, Fabien, on serait tenté de croire que la Suisse, qui n'a jamais possédé de colonies, a les mains toutes propres s'agissant de cette période sombre de l'histoire. Alors, c'est peut-être le cas pour l'État suisse. En revanche, certains de ses citoyens ont été mêlés à cette période. Notre invité va nous raconter en quelques mots le rôle que des citoyens suisses ont pu jouer dans le commerce négrier et dans l'esclavage entre le XVIIe et le XIXe siècle, avec un focus sur un récit en particulier.
Et cet invité ce soir, c'est Olivier Pavillon. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Merci de nous accorder quelques minutes de votre temps. Vous êtes journaliste, historien de formation. Vous avez dirigé également le musée historique de Lausanne durant 15 années. Vous avez également été responsable du cabinet des manuscrits de la bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne. Vous êtes également auteur à vos heures. Et vous avez rédigé plusieurs ouvrages sur des familles suisses mêlées au trafic d'esclaves. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ce sujet, Olivier Pavillon ?
Eh bien, c'est que, comme on vient de le dire, c'est un sujet qui n'est pas tellement présent dans l'histoire suisse. Bon, disons que maintenant, depuis une quinzaine d'années, on en sait un peu plus, hein. Mais il y a encore une quinzaine d'années, c'est un sujet complètement tabou, on n'en parlait pas. Et alors j'avais, par hasard, lu, il y a peut-être, je ne sais pas, 25 ans, dans une histoire sur la banque en Suisse, on parlait à un endroit de bateaux qui partaient de Marseille pour faire la traite négrière et qui portaient des titres tels que Ville de Lausanne et Pays de Vaud. Je disais, tiens, bizarre, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors c'était resté dans ma mémoire. Et puis bon, ma vie professionnelle ne m'a pas tellement permis de faire de la recherche historique. Et à la retraite, je me suis dit, tiens, je vais essayer de creuser.
Donc c'est une retraite qui vous a permis d'ouvrir les yeux sur un côté historique qui vous a pas forcément plus branché depuis le début.
C'est-à-dire que, je dois dire que si on est un peu sensible aux injustices du monde, on est quand même aussi sensible à ce qui s'est passé comme injustice dans l'histoire. Et diable, si c'en est une, ça.
Et justement, Olivier Pavillon, à travers vos différents ouvrages, on apprend que plusieurs familles suisses, voire suisses romandes, ont été actives dans le trafic négrier. Qui sont ces familles ?
Alors, d'abord, je veux dire qu'il existe en fait, maintenant depuis à peu près 8-9 ans, un petit bouquin qui s'appelle « La Suisse et l'esclavage », qui est apparu aux éditions Antipode, publié par trois chercheurs lausannois, genevois, chercheurs et chercheuses, qui est excellent. Hein, donc, on peut là trouver pas mal de choses. Alors, quels sont ces gens ? Il y a de tout. Il y a des marchands, il y a des commerçants, il y a des industriels qui fabriquent par exemple des indiennes. Les indiennes, c'était des tissus de coton de couleur qui étaient vendus en Suisse certainement aussi, mais surtout dans les territoires d'outre-mer, c'est-à-dire en Afrique. Et ça servait souvent d'échange contre des esclaves. Mmh. Donc il y a toutes sortes d'industriels, en particulier dans le canton de Neuchâtel, mais dans le canton de Glaris aussi, qui se sont établis industriels d'indiennes et puis qui cherchaient des débouchés. Alors ils ont établi des comptoirs, par exemple à Nantes ou à Marseille ou à Lille ou à Bordeaux, là où, d'où partaient justement les navires négriers avec les cargaisons qu'ils allaient échanger contre des esclaves. Mais il y avait également des mercenaires qui ont été soldats ou officiers dans des troupes coloniales chargées de maintenir l'ordre dans les territoires conquis. Il y avait des pasteurs et puis il y avait des aventuriers. Mmh. Voilà.
Votre prochain ouvrage à paraître est intitulé « Des Suisses au cœur de la traite négrière, de Marseille à l'Île-de-France, d'Amsterdam en Guyane, 1770-1840 ». Est-ce que vous pouvez nous présenter cet ouvrage à paraître ? De quoi est-ce qu'il parle ?
Alors, bon, le champ est effectivement chronologiquement assez vaste, parce qu'on a eu la chance de retrouver en fait la correspondance qui est aujourd'hui conservée aux archives cantonales vaudoises d'un membre d'une famille qui s'appelle Larguier des Boncelles, qui est d'origine huguenote. On a d'ailleurs toute l'histoire de la période huguenote, quand ils sont venus à Lausanne. À Lausanne, le type a fait quelques actes frauduleux, il a dû fuir. Puis c'est à partir de là qu'il part, s'appelle Pierre-Frédéric Larguier des Boncelles, il part à l'île Maurice et on a toute sa correspondance et également de ses descendants qui étaient à l'île Maurice jusque vers 1840. Donc on a à peu près un siècle de leur présence à l'île Maurice où ils étaient trafiquants et également planteurs.
L'île Maurice qui à l'époque s'appelait Île-de-France, hein, d'où la mention Île-de-France dans le titre.
Parce que c'est une île qui d'abord a été colonisée par la France, d'abord par les Hollandais, puis par les Français et enfin par les Anglais.
Et comment est-ce qu'il vous a été possible de réunir tous ces documents historiques qui ont été nécessaires à cet ouvrage ?
Alors, c'est un peu le problème pour ce genre de recherche, parce qu'en fait, vous ne trouvez rien dans les archives officielles de la Confédération suisse ou des cantons. Puisque, à part le canton de Berne, qui au XVIIIe siècle avait des actions, la Compagnie orientale des Indes, d'une manière générale, les pouvoirs publics n'ont pas participé à la colonisation, c'est clair. Alors les individus, dans la mesure où leurs correspondances ou bien leurs souvenirs ont été conservés, ben voilà, seulement il faut les trouver parce que souvent leurs correspondances qui passaient par mer étaient victimes des naufrages, des pirates, ou bien alors ensuite les familles conservant ça dans des greniers se sont dit un jour, ouais, c'est du vieux papier, ça sert à rien. Donc en fait, on a malheureusement peu de choses et heureusement, quelques personnes ont sauvé des correspondances, des souvenirs. C'est ça que j'ai utilisé.
En particulier pour la famille des Boncelles.
En particulier pour la famille Larguier des Boncelles, dont les archives sont aux archives cantonales. Elles ont été données par les deux derniers descendants de cette famille, dont le dernier était un professeur de l'Université de Lausanne. Et puis là, il était un peu sensibilisé quand même aux archives, au rôle des archives. Il a donné ça aux archives, c'est bien. Mais par exemple, pour un autre, qui est Alfred Berthoud, qui est de Châtelois, dont je parle aussi dans le bouquin, là, c'est par hasard que les archives de la vie moderne à Neuchâtel ont reçu des papiers qui étaient destinés quasiment à la poubelle. Et là aussi c'est une correspondance d'Alfred Berthoud qui est retourné au Suriname où il possédait des plantages comme on disait et des esclaves et puis qui est là-bas pour les liquider, pour vendre tout ça. Et alors il écrit à sa femme à Neuchâtel pour lui expliquer ce qui se passe. Voilà les éléments qu'on peut avoir.
Si on en revient à la famille des Boncelles qui occupe le premier volet de votre ouvrage, on trouve l'extrait d'une lettre que Pierre-Frédéric Larguier des Boncelles, que vous avez évoqué tout à l'heure, écrit à sa mère en 1787, où il est dit « Avant-hier, nous avons obtenu la permission d'aller faire à Madagascar la traite des Noirs, qui, dans le courant de la saison, peut nous donner un gros bénéfice si nous n'éprouvons pas de malheur. » Fin de citation. Donc, en parallèle du commerce de marchandises, il se lance aussi dans ce commerce-là.
Voilà. Donc, tous ces trafiquants n'étaient pas nécessairement des négriers. Ils faisaient le trafic de toutes sortes de produits. Ils allaient, par exemple, acheter des produits en France, à Marseille, et puis ils les revendaient à l'île Maurice ou bien à l'île de France, en l'occurrence, ou bien à La Réunion, voire à Madagascar, ou bien même sur les côtes de l'Inde. Hein. C'était parfois des voyages de nombreux mois. Mais en l'occurrence, ils vont aller à Madagascar et ils vont faire de la traite négrière. Madagascar, c'est assez proche de l'île Maurice. C'est une terre qui fournit beaucoup de riz aux habitants, aux colons de l'île Maurice, mais aussi des esclaves. Encore que la principale source d'esclaves à l'époque dans cette région-là, c'est le Mozambique. Voilà. Mais lui va d'abord trafiquer avec Madagascar. Il trafiquera aussi avec le Mozambique. Alors, l'expédition dont on parle, il en espère beaucoup. Il va même racheter des locaux à Port-Louis, à l'île Maurice, pour stocker, entre guillemets, les esclaves qu'il va acheter à Madagascar. En réalité, tout va très mal se passer. Il va faire naufrage, le capitaine va mourir, le bateau va devoir faire escale à La Réunion avant de revenir à l'île Maurice, et en définitive, il reviendra avec très très peu d'esclaves, parce que la plupart se sont révoltés. Et ça, c'est une chose qui se produit très souvent, des révoltes d'esclaves, et là, ça a été une révolte importante.
En particulier sur les navires.
Oui, oui. Alors, ils se révoltaient le plus souvent sur les navires. Il y en a à plusieurs reprises. Des navires ont été pris ensuite en charge par les esclaves révoltés. Parfois, ils savaient à peu près naviguer. D'autres fois, ils ne savaient pas. Et puis, ils naviguaient un petit peu, un peu
à vue.
À vue. Et puis, ça s'est traduit par des catastrophes.
D'ailleurs, petit à petit, les mouvements abolitionnistes gagnent du terrain et parviennent finalement à l'Abolition Bill le 1er août 1833. Il y a une protagoniste de la famille Larguier qui se plaint des esclaves à cette période. Elle dit « Depuis qu'on leur a tout accordé, on peut bien dire que mieux ils sont traités, moins ils valent. Je voudrais bien qu'on envoyât dans les colonies quelques-uns de vos philanthropes négrophiles et leur donne une centaine de noirs et de la terre pour tout revenu. » Fin de citation.
Oui.
C'est une période décevante pour la famille Larguier.
Ben, disons que c'est assez typique de la réaction des colons. Hein. Oui. Les colons, en fait, ils se rendent bien compte qu'en 1833, la période de l'esclavage se termine. Ce qu'ils essayent, c'est d'obtenir en fait, des indemnités pour leurs esclaves libérés de la part du gouvernement anglais. Ça va être le cas. Hein. Ça va être le cas. C'est un des descendants de ces Larguier de l'île Maurice qui était préfet à Nyon, ici, le père de ceux qui vont devenir par la suite professeurs à l'Université de Lausanne, qui va devoir, en fait, il est l'héritier, il hérite des terres, il hérite des esclaves, et c'est lui qui va devoir liquider les terres et les derniers esclaves. Mais ce qu'il faut dire précédemment à propos de Pierre Frédéric, c'est qu'il avait un fils, il l'avait fait venir sur place, et ce fils, en fait, va, au moment de la première abolition de l'esclavage, au moment où la Révolution française supprime l'esclavage,
par les
en 1791 ou 92, je ne sais plus exactement, eh bien lui, en fait, il va se mettre à la tête quasiment des jeunes colons de l'île pour repousser les représentants de la Révolution française qui viennent proclamer la abolition de l'esclavage. Il les renvoie purement et simplement en disant « Nous, ici, on va maintenir l'esclavage. » Et en fait, l'esclavage va être maintenu sur l'île Maurice.
Encore quelques
années. Pas mal de temps. Ensuite, les Anglais vont occuper l'île et puis alors, eux vont supprimer, disons, la possibilité d'acheter des esclaves, mais disons, ceux qui étaient sur l'île sont restés propriétés de leur maître et ne seront libérés que dans les années 1830-35.
Dans l'ouvrage, il est question par endroits de dégringolade financière vertigineuse. On s'en approche. D'ailleurs, ça a un lien très concret avec l'abolition. Enfin, ça signifie aussi la fin d'un certain profit. Mais il y a aussi des cyclones dévastateurs, des épidémies de choléra et une féroce concurrence entre les planteurs.
Oui, parce que disons, il y a beaucoup de Suisses, de Français, enfin d'Européens, de manière générale, qui partent là-bas. Ce sont des aventuriers. Ils espèrent faire fortune. Notre Pierre Frédéric, lui, il a essayé de faire fortune à Lausanne. Il a fait des actes un peu frauduleux. Il a dû partir en vitesse, mais il n'a pas un sou. Il a dû tout laisser à Lausanne. Donc, il espère, à l'île Maurice, faire sa plotte. Alors, au début, ça marche bien, ça monte. Il peut faire des différents commerces, y compris du commerce d'esclaves. Et puis ensuite, il y a des pirates qui s'emparent du bateau. Il y a des tempêtes qui font couler des navires. Il y a des révoltes d'esclaves, comme on l'a vu il y a un instant. Ce qui fait que c'est vraiment en dents de scie. Mais en définitive, les Larguier ne vont pas tellement faire fortune à l'île Maurice. Et à la fin, ce n'est pas vraiment une fortune considérable qui va en sortir, il faut dire.
Et puis, la lignée se termine plus ou moins avec les descendants de Pierre Frédéric. J'ai plus tout.
Oui, alors Pierre Frédéric, il a en fait un frère à Lausanne qui va devenir préfet de Nyon et qui aura deux enfants, dont les deux d'ailleurs vont être professeurs, l'un de droit et l'autre de je ne sais plus de quoi, à l'université de Lausanne, enfin d'abord à l'académie de Lausanne, ce n'était pas encore une université, puis ensuite à l'université de Lausanne, mais ils n'auront pas de descendants. Donc, maintenant, mm-hmm. la famille Larguier des Bancelles, mm-hmm. elle a disparu. Par contre, à Saint-Germain-de-Calberte, dans les Cévennes, il y a encore beaucoup de Larguiers qui vivent. Hein. Mm-hmm. Et moi, j'y suis allé. Et c'est assez émouvant. J'ai retrouvé beaucoup de traces de mes Larguiers là-bas, mm-hmm. y compris au moment où on les a forcés à abjurer la foi protestante.
Oui.
C'était impressionnant.
De vos Larguiers, vous dites, vous êtes devenu familier avec à force de les étudier.
Ah ben oui, vous étudiez une famille pendant à peu près, je ne sais pas, 4 ans, je suis allé à Marseille, je suis allé dans les Cévennes, je ne suis pas allé à l'île Maurice, mais j'étais en relation avec des uh-huh. historiens de l'île Maurice. Donc finalement, vous devenez quand même assez familier de ces gens.
Olivier Pavillon, est-ce que vous avez déjà d'autres sujets en perspective maintenant que la lignée des Bancelles est bouclée ?
Non, pas pour l'instant. Je me repose. Peut-être que ça surgira, ça, mais non. Pour l'instant, je jouis plutôt du temps présent.
Et puisque vous continuez à faire des recherches, est-ce que si quelqu'un vous contacte demain, après-demain, après-après-demain, l'année prochaine peut-être, ouais. avec des nouvelles informations sur cette lignée des Bancelles, vous en faites quoi ?
Ah bah, d'une part, je suis toujours preneur, on peut toujours corriger des choses qu'on a dites, parce que l'histoire n'a jamais une science exacte, hein, c'est clair. Et puis d'autre part, je peux aussi communiquer ça à des jeunes qui, à l'heure actuelle, font des mémoires à l'UNI, etc. Je pense que c'est un sujet vraiment qu'on peut défricher et où il y a beaucoup de choses à trouver encore. Mmh, mmh.
Votre ouvrage, quand est-ce qu'il paraît réellement ?
Alors, début novembre, chez Antipode, ici à Lausanne. Oui. On aura ce vendredi une présentation du bouquin. Il y aura un comédien sénégalais qui va lire pendant une petite demi-heure des extraits du livre. Et puis le livre, mais il ne sera pas encore imprimé à ce moment-là. Oui. Il paraîtra, je crois, 15 jours plus tard. Et là,
à mi-novembre à peu près.
Ouais, il y aura au cinéma Bellevaux, de nouveau, je crois, une présentation. Mais ça, il faut demander à l'éditeur, je sais pas.
Ouais, ben on lui demandera, tiens, ouais. Pourquoi pas. Votre prochain ouvrage, donc, Des Suisses au cœur de la traite négrière, de Marseille à l'île de France, d'Amsterdam en Guyane, 1770-1840. C'est votre livre, Olivier Pavillon. Merci beaucoup d'être passé par Radio Django ce soir.
Merci à vous.
Olivier Pavillon, auteur et expert de cette question d'esclavagisme qui était au menu de cet entretien du 24 octobre dernier. Un sujet proposé par Linda et à retrouver avec les liens sur notre site www.django.fm.
Freedom! 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 Freedom!
Grand Direct s'est terminé pour ce mardi. Nous avons parlé de la situation des sans-abri à Lausanne. Nous avons parlé d'une BD après l'arrivée pour des migrants et du livre d'Olivier Pavillon. Tous ces sujets sont à retrouver et à réécouter sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, eh bien, nous parlerons de la différence entre aide sociale et aide d'urgence avec notre invité Djihada Descoulon dans le cadre de la séquence décryptage au menu de la Rose des Vents. On se retrouve donc mardi prochain pour un nouveau Grand Direct à partir de 18h. Très belle soirée à vous à l'écoute de nos programmes. Il est 19h.
Radio Django à écouter sur radio.django.fr. Thank you.